Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et aujourd'hui, non pas un coup de cœur ciné, mais deux coups de cœur ciné. On va démarrer avec La Page Blanche, le film de Muriel Magellan, qui va nous rejoindre dans un instant avec Sarah Giraudeau et Pierre Deladonchamp pour parler de ce film qui est sorti mercredi dernier au cinéma. Nos coups de cœur télé aujourd'hui qui seront consacrés notamment à Champion, qui sera diffusé ce soir sur TF1 à cette occasion. Aurélie Ponce sera notre invitée exceptionnelle. Andréa Bescon et Marie Gillin viendront nous parler du très beau téléfilm diffusé demain soir sur M6, intitulé À la folie, qui parle d'un pervers narcissique. Brillamment interprété par Alexis Michalik. On en parle évidemment tout à l'heure. Et puis Gauvin Serz également était en tournée tout au long de l'été. On va venir parler de son album Ta place dans ce monde. Gauvin sera notre invité également. Et puis on finira avec un deuxième coup de cœur ciné aujourd'hui avec La Dégustation. Yvan Calberac, Isabelle Carré, Bernard Campan viendront terminer cette émission avec nous. Alors vous l'avez compris, on va pas chômer. Voici tout de suite notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré également à La Page Blanche, un film de Muriel Magellan qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui est une adaptation d'une BD de Pénélope Bagieu, notamment après Joséphine. Eh bien, c'est La Page Blanche qui est adaptée au cinéma. Et puis on va découvrir Héloïse avec Sarah Giraudeau qui lui donne vie. Bonjour Sarah.
Bonjour, enchantée.
Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. On va découvrir également Moby Dick, qui lui est incarné par Pierre Deladonchamp. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être là. Comment est née cette idée d'adapter cette nouvelle BD de Pénélope Bagieu?
J'ai lu la bande dessinée en 2013, donc ça fait longtemps. Et quasiment tout de suite, en la refermant, j'ai eu envie de participer à un film. À l'époque, je ne réalisais pas, j'étais pas encore réalisatrice. Je me disais, je veux être de cette aventure-là. Et puis, l'audace m'a pris. Et je me suis positionnée en tant que non seulement adaptatrice de la bande dessinée, puisque je suis scénariste et j'écris des romans, mais je voulais aussi la réaliser. Parce que ça touchait quelque chose de très, à la fois très intime et ça m'amusait beaucoup. Et je trouve que c'était, aller au cinéma avec une comédie intime, ça me plaisait.
C'est vrai qu'on rit beaucoup évidemment, on est aussi très ému par le destin d'Héloïse qui travaille dans une librairie, mais ça on va le découvrir évidemment. Parce qu'en fait la BD c'est ça, c'est l'histoire de base. Héloïse se réveille sur un banc et n'a plus aucun souvenir de qui elle est, de ce qu'elle fait. Et elle va devoir réapprendre petit à petit à se connaître, en quelque sorte.
Oui, il va falloir qu'elle reparte sur les traces de sa vie. Donc Muriel a construit ça aussi comme une enquête. Donc il y a la sidération au départ, et cette sidération va amener un étonnement constant de redécouvrir qui elle était. Et puis en même temps, en redécouvrant qui elle était, elle va se retrouver vraiment.
Et elle va aller de surprise en surprise, je crois que ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah, ça c'est il y a énormément de rebondissements dans le film, et c'est ça qui est magique aussi dans la construction du film, c'est que c'est et les situations et les personnages ont quelque chose de très il y a beaucoup de fantaisie, il y a beaucoup de mélange d'émotions. C'est pour ça que c'est un film qui est très dense finalement. Il paraît léger mais il est très très dense.
Très très rythmé. Alors la première chose qu'elle va faire, Héloïse, évidemment, elle est sur un banc, il y a une boutique juste en face où travaille Moby Dick. Et c'est là qu'elle va essayer vraiment de lui demander, est-ce que t'as vu quelque chose? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'étais là? Et pourquoi je me suis réveillé comme ça?
Oui, c'est un petit peu la première personne qu'elle rencontre pour essayer de comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Elle dit pas qu'elle a perdu la mémoire, mais elle dit juste qu'elle aimerait bien retrouver son téléphone parce qu'elle l'a perdu. Alors lui dit ça change un téléphone, mais elle en fait elle est plus dans qui je suis, pas qui est-ce que j'appelle, puisqu'elle se souvient plus de rien. Et Moby Dick qui va être très vite séduit par cette jeune femme un petit peu lunaire. Elle beaucoup plus dans qui je suis, où je vais, merci, au revoir.
ça va pas l'aider, effectivement.
Elle, c'est son seul témoin, donc peut-être a-t-il vu quelque chose qui va me faire avancer, mais non, il n'était pas là apparemment ce jour-là.
Alors, une amie, enfin, qui n'était pas une amie, mais qui va se retrouver très précieuse, c'est le personnage incarné par Sarah Souko, qui est sa collègue de travail, qui était un peu, on va dire, celle dont on se moquait. Et ça, évidemment, Héloïse n'en a aucun souvenir et ça va devenir une alliée précieuse dans cette quête de vérité et de souvenirs de vie.
Oui, cette nouvelle Héloïse qui naît hein, ou qui renaît est attirée irrémédiablement, mais sans même trop s'en rendre compte, vers cette jeune fille parce qu'elle se sent, elle est dans une insécurité totale. À ce moment-là, quand elle redécouvre, elle repart sur son lieu de travail, elle redécouvre, l'univers dans lequel elle évoluait, et donc elle va être attirée par cette jeune fille, tout simplement, je pense, parce qu'elle se sent peut-être en confiance et peut-être justement une écoute et une personnalité à qui elle va pouvoir peut-être se confier, mais finalement elle se rend compte que dans son ancienne vie. L'ancienne Héloïse ne parlait pas à cette Sophia et était dans une non-relation. Donc voilà, elle va être encore étonnée de cette attitude.
Il faut dire qu'elle va découvrir quand même qu'Héloïse mène une relation libre en quelque sorte avec son chef, en quelque sorte, Grégoire Ludig.
Relation libre, mais la nouvelle Héloïse, encore une fois, se demande pourquoi une relation libre avec cet homme était d'actualité, puisqu'elle le trouve quand même profondément charmant et que presque un petit peu amoureuse même assez directement de cet homme et ne comprend pas le principe de la relation libre. Donc c'est pareil, c'est Héloïse qui rencontre Héloïse à chaque situation, quoi.
Muriel, c'était évident, ces deux-là, pour incarner ces personnages, et Sarah, pour incarner votre Héloïse.
Oui, Sarah, dans Héloïse, c'était pour moi une évidence et un désir extrêmement fort, parce que j'avais l'impression qu'elle était la seule, quasiment, à pouvoir donner chair à ce personnage. Et puis, j'avais beaucoup d'admiration aussi pour la comédienne qu'elle est. Je l'avais vue au théâtre, au cinéma, bien sûr, mais donc ça faisait longtemps que je la regardais de loin, donc j'espérais vraiment le faire avec elle. Et Pierre, ça a été une évidence, peut-être à moi direct, on s'est parlé, enfin j'avais envie de travailler avec lui, c'était sûr, mais on s'est parlé et je crois que j'ai réussi à faire qu'il veuille bien venir dans le film, et je crois qu'il aimait beaucoup le scénario. Donc ce qui était intéressant, en fait, et c'est ça peut-être qu'il faut j'explique, c'est que je lui proposais un peu un contre-emploi, et c'était pas venu tout de suite de lui proposer un contre-emploi, mais finalement ça m'a apparu évident, il fallait que ce soit lui, et il m'a dit oui.
C'est un film qui est d'une poésie assez folle, on sent vraiment que vous vous êtes amusé, en tout cas Sarah, ça fait beaucoup de bien de te voir dans une vraie comédie rythmée et pleurer moins que dans d'autres films, hein, parce qu'on t'a vu pleurer dans beaucoup de films, et donc là c'est vrai que voilà, c'est vraiment chouette de te voir dans un film comme ça, et nous on a passé un très bon moment, donc moi je vous conseille, parce que le film vient juste de sortir dans les salles, mercredi dernier, donc c'est encore le moment en tout cas d'aller le voir. Juste pour terminer, on évoque vite fait vos projets qui vous attendent. Alors Muriel, c'est la scénariste chouchoute de notre ami Jean-Pierre Améris qui vient de démarrer un tournage avec Louane, je crois en ce moment, dont vous avez écrit le scénario aussi.
Non, je n'ai pas écrit le scénario. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Changer le sens des rivières »
qui l'adapte.
Voilà, et c'est donc Marion Michaud et Jean-Pierre Améris qui ont fait le scénario.
Je sais qu'il y a une belle histoire entre vous, en tout cas, souvent, et vous travaillez beaucoup ensemble, en tout cas.
Absolument, une très belle histoire.
Sarah, les projets ?
Alors moi, je viens de commencer une série, écrite par Camille de Castelnau et produite par Eric Rochin. Et ça va être une longue et belle série sur les dommages collatéraux que crée la maladie d'un enfant dans une famille. Voilà. C'est lourd, mais c'est très beau. Et en janvier, je reviens au théâtre avec ma première mise en scène, mais dans laquelle je joue, qui s'appelle Le syndrome de l'oiseau. Une pièce de Pierre Tréhardy qui va se jouer au Rond-Point, à la salle Tardieu, à partir du 18 janvier.
Le rendez-vous est pris. Pierre ?
Moi, je suis actuellement en tournage d'un biopic sur la très grande skippeuse Florence Artaud, première femme à avoir gagné la Route du Rhum, tragiquement décédée il y a quelques années. J'interprète le frère de Florence Artaud, de qui elle était très proche. Voilà, je tourne jusqu'en décembre.
Pas de suite à romance ?
Non, malheureusement, pas de suite à romance. En tout cas, pas pour l'instant. Je sais que Hervé comme Anne-Mar avait très envie, mais son emploi du temps est très chargé parce qu'il croule sous les projets.
En tout cas, on espère, c'était une très très belle série aussi à découvrir. En attendant, c'est La Page Blanche et ça, c'est depuis mercredi dans les salles. On ne le rate pas, on va au cinéma. Allez, on va se quitter avec la bande-annonce. Merci à tous les trois. Merci Pierre, merci Sarah et merci Muriel d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Mais j'habite où, moi? Je fais quoi comme travail? Je suis pas CRS quand même. Ordonnance.
Docteur, je me souviens pas quel travail je fais.
Mais vous vendez des livres chez Gibert.
Quand tu auras le temps, tu me feras les pickings et les decks, ok?
Ouais. Les decks. Je te jure, Sonia, il faut que tu me crois.
Elle m'a demandé de faire des pickings et des decks, je sais même pas ce que c'est.
Merde!
Je suis dans le brouillard total.
Et ta famille, t'as essayé de les joindre?
J'ai rien trouvé sur ma famille.
Et toi?
Vous souffrez d'une amnésie d'identité, sans doute déclenchée par un choc émotionnel.
On m'a volé mon portable.
Je vous ai vu, j'étais votre portable, vous avez crié.
Pas de faire foutre, William!
Vous devez chercher des stimuli sensoriels. Vivez, aimez, faites l'amour.
C'est peut-être comme ça que je trouverai que j'étais un...
Et tu fais comment, ça?
On cherche, on ose, quoi.
D'ailleurs, est-ce qu'on sait vraiment, toi et moi, qui est celle qui fut devant toi? Je sais même pas, tu vois, si toi et moi, on sait qui est celle qui est là. C'est un peu flou.
Non, mais Sonia, on devrait tous faire de la mémoire au moins une fois dans sa vie.
Et dans un instant, Gauvin Serre, Aurélie Ponce, Isabelle Carré, Bernard Campan, Yvan Calberac vont nous rejoindre dans Chut, on écoute la télé pour la suite de l'émission. Alors surtout, ne bougez pas, Marie Gillin et Andréa Bescon également sont dans la place. À tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Elle me dit, dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis, laisse aller. Pose café, un collègue me dit que c'est la misère. Que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je lui dis, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête. Que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête. Ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse aller. Au midi, le serveur dit c'est pas la fête. Depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller. Laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon, c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force, ni le manuel. Je me dis laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas. Et si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse aller.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille pour la troisième fois dans Chut, on écoute la télé, Gauvin Serres qui est avec nous. Bonjour Gauvin.
Bonjour à tous.
Écoute, ça nous fait plaisir, on te suit depuis le début, Gauvin, ou que nous aussi, on a fait évoluer l'émission depuis ses débuts et on se suit maintenant depuis plus de 5 ans. C'est une vraie aventure qui continue, une vraie histoire d'amour avec le public. J'ai l'impression pour toi, avec ce troisième album, ta place dans ce monde qui est sorti l'année dernière.
C'est vrai, ouais, je mesure la chance d'être privilégié dans ce métier-là et d'avoir un public fidèle et qui suit voilà les aventures, les albums et qui vient au concert surtout. Je crois que c'est là qu'il y a vraiment le partage avec les gens.
Alors, moi, ce que j'aime bien dans tes chansons, t'es souvent un peu le porte-parole des gens qu'on oublie ou des gens dont on ne parle très peu souvent. C'est un peu, on va dire, ta marque de fabrique parce que voilà, tu parles justement de ces gens-là dont on ne parle pas souvent. C'est vraiment une particularité chez toi que j'aime beaucoup.
Bah, en tout cas, ouais, j'essaye de parler des gens qui me touchent dans la vraie vie, dans la vie en général. Voilà, de les mettre dans la lumière, justement, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mis en lumière. Et voilà, après, faut le faire le plus sincèrement possible. Je me dis pas, tiens, il faut absolument que je parle de cette personne-là ou de cette personne-là, mais c'est plutôt, ça me tombe dessus. Voilà, les chansons, c'est en réaction aussi à une émotion, à quelque chose qu'on va ressentir, dans ce qu'on vit au quotidien. Et après, faire des portraits, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que ça ramène de la profondeur et de l'humanité. On arrive tout de suite à rentrer dans une chanson quand on raconte une histoire, l'histoire de quelqu'un, et puis ça permet de pouvoir dire plein de choses aussi sans être trop frontal, sans être trop premier degré, et puis essayer de toucher les gens, ouais.
Alors, ce qui est assez dingue, c'est qu'évidemment, t'as été propulsé aussi par Renault, le Phoenix Tour, t'as fait ses premières parties, tu as joué devant des salles absolument incroyables, et aujourd'hui, ces salles, elles sont à toi. T'es la tête d'affiche de ces salles, c'est une récompense sur la vie assez hallucinante, ça aussi.
Ouais, c'est vrai que le parcours, il est assez dingue, assez fou. Quand je regarde dans le rétroviseur, il s'est passé tellement de choses là en 5 ans que parfois j'ai encore du mal à réaliser, mais je suis très heureux de faire ce métier-là. Moi, au départ, je voulais juste vivre de ma musique. C'était vraiment mon rêve le plus dingue quand j'ai commencé à écrire des chansons tout seul dans ma petite chambre. Et puis voilà, il s'est passé beaucoup de rencontres, beaucoup de choses et voilà, j'essaye de me souvenir pourquoi j'ai commencé à faire des chansons. Voilà, c'était l'amour des mots, le fait de vouloir raconter des choses et voilà, les transmettre à des personnes. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est voilà, les gens ils reviennent au concert, les gens ils viennent parfois avec leurs enfants, parfois ils viennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Donc il y a un peu voilà, toutes les générations, et ça c'est vraiment peut-être la chose qui m'émeut le plus pendant les concerts. Et puis voilà, maintenant j'essaye de travailler pour que ça continue. Et voilà, il y a eu 3 albums, mais j'espère que c'est encore que le début d'une longue histoire, quoi.
Si on dit jamais 203, on dit aussi jamais 300.
304 <peut-être.
rire> On ne sait pas, en tout cas, moi je te l'espère. Et puis qu'au rythme où t'es parti, normalement 2023, hein, t'es bien parti pour.
Bah, je pense pas qu'il y aura d'album en 2023, mais je continue d'écrire des chansons un peu tous les jours. Et voilà, dès que je sentirai que j'en ai 12 ou je suis content de cette cuvée-là, voilà, je partirai en studio. Mais j'essaye de prendre le temps aussi, parce que voilà, de ne pas non plus être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant tiens, il faut que je fasse un album le plus vite possible. Non, c'est les chansons qui guident l'envie de sortir quelque chose.
Oui, puisque j'aime chez toi et dans tes chansons aussi, c'est que dans l'écriture, dans la façon de les interpréter, il y a quelque chose aussi de très poétique. On pourrait vraiment t'assimiler vraiment à un semi-chanteur poète. Et il y a quelque chose de très poétique. Ouais. Je pense à la chanson Les Oubliés, mais il y en a plein de choses. Il y a plein de chansons comme ça dans ton répertoire qu'on peut vraiment apparenter à de la poésie aussi.
Bah, en tout cas, c'est important de mettre de la poésie dans les chansons. Ça, c'est très très important. C'est une facette. Parce qu'en plus, je fais une chanson assez réaliste, voilà, qui parle du quotidien, qui parle de ce qu'on peut vivre dans nos vies de tous les jours. Et du coup, mettre un peu de poésie, ça permet d'embellir un peu les choses, de redonner un peu d'espoir aussi, parce que on vit dans un monde où où c'est dur de voir parfois le verre à moitié plein. Donc les chansons sont aussi faites pour amener justement, voilà, un peu Ben un peu de
espoir,
de ciel bleu à l'horizon, quoi. Et ça sert aussi bien sûr à pointer du doigt des injustices ou l'absurdité parfois du monde dans lequel on vit, mais aussi les jolies choses. Donc la poésie, bien sûr, ouais, elle est importante, parce que sinon on ouvre un journal, on regarde le journal télévisé et puis on déprime tout seul dans notre canapé. Et les chansons sont différentes de ça.
Oui, mine de rien, sous fond de poésie, sous fond de chansons, tu dénonces beaucoup de choses aussi, et c'est ça qui est bien aussi dans tes chansons, parce que le message passe souvent beaucoup mieux que d'arriver avec des pancartes et de voilà d'hurler dans tous les sens. Aujourd'hui, le message passe largement aussi bien quand tu dénonces des choses des fois graves de notre société dans tes chansons.
Ouais, après c'est la manière de le faire, je pense, qui est très importante. C'est l'angle avec lequel on va attaquer une chanson, c'est où est-ce qu'on pose un peu sa caméra pour montrer les choses. Et surtout, je pense qu'il faut surtout pas être moralisateur dans les chansons et pas être trop premier degré, trop frontal. Je pense que c'est le meilleur moyen de braquer les gens. Et justement, d'intégrer des personnages aussi dans les chansons, ça permet de faire parler les autres aussi, et c'est assez intéressant, je trouve.
On écoute un premier extrait, ta place dans ce monde, lequel tu as envie maintenant qu'on appuie sur un bouton, tu nous dis laquelle.
Je sais pas, peut-être une chanson qu'on n'a pas beaucoup diffusée justement dans les antennes. Peut-être une chanson que j'aime beaucoup de cet album, je dirais Chanteuse de salle de bain, parce que je trouve que c'est un thème assez universel. Puis j'aime bien le dernier couplet, alors pour ça je voudrais qu'on écoute celle-ci.
Allez, on y va et on revient avec toi juste après, Gauvin.
Les lettres rouges, l'Olympia, être une starlette des médias, c'est pas pour elle. Mais dans l'âme, c'est une artiste, et chaque jour, elle entre en piste. Elle est de celles qui ne peuvent pas s'empêcher, comme un délicieux péché, tous les matins, d'élever sa voix frileuse et de se la jouer chanteuse de salle de bain. Bien sûr, devant son miroir, en lissant ses cheveux noirs qui frisent trop vite, forcément dans la baignoire, allongée le dimanche soir, elle en profite pour enfouir toutes ses galères, ses emmerdes et ses colères dans les refrains qui rendent sa vie plus heureuse et qui font d'elle une chanteuse de salle de bain. Quand elle s'essaye à l'anglais, je vous assure qu'on se croirait chez les British. Elle fait valser toutes ses fringues, en faisant croire qu'elle est bilingue, elle est fortiche. Elle s'imagine à Bercy, tous les murs lui crient merci, claquent des mains. On n'en est pas moins rêveuse quand on incarne une chanteuse de salle de bain. Le micro devant la bouche, c'est toujours la pomme de douche qui fait office. Mais quand elle sort encore mieux, elle s'agrippe aux sèche-cheveux, aux dentifrices. Sur qu'elle y met tout ce qu'elle a, comme si c'était une diva, c'en est divin. Aussi libre que généreuse, c'est son secret de chanteuse de salle de bain. Même les voisins sont de mèche, ils savent bien que rien n'empêche de toute façon une gonzesse devant sa glace de se la jouer Maria Callas ou Céline Dion. Quand elle chante mes mots à moi, je suis fier comme un bar tabac, tu t'en doutes bien. Reconnaissance merveilleuse d'être chantée par la chanteuse de salle de bain. Elle me dit qu'elle chante comme ça pour les femmes qui ne peuvent pas, qu'on interdit, pour toutes celles qui auraient voulu, qu'on bâillonne et qui ont dû payer le prix. Le prix du droit de chanter l'amour et la liberté au quotidien, pour toutes celles silencieuses qui rêveraient d'être chanteuses de salle de bain. Pour toutes celles silencieuses qui rêveraient d'être chanteuses de salle de bain.
Alors, ta place dans ce monde, moi je me suis posé la question, Gauvin, de ce titre d'album. Et je me suis dit, est-ce que c'est une question que tu t'es posée pendant le confinement? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée avec tout ce qui s'est passé ces dernières années?
Bah oui, forcément. Je crois que c'est une question que tout le monde s'est posée pendant cette période où on était un petit peu au ralenti, plein de choses étaient mises de côté et quelque part toutes les choses les plus fondamentales nous sautaient un peu au visage. Le fait de est-ce que j'ai choisi de faire le bon métier? Est-ce que j'habite au bon endroit? Voilà, c'est des question un peu existentielle, mais qui sont
remué beaucoup de monde.
Ouais, qu'on remuait pas mal de gens. Il y a plein de gens qui ont changé de vie à ce moment-là. Et est-ce que je me sens utile? Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, c'est des choses. Est-ce que je suis à la bonne place, tout simplement? Et moi, ça m'a conforté dans l'idée que je faisais le métier qui me passionnait, en tout cas, et où j'ai l'impression de faire quelque chose qui me correspond. Et le fait de pas avoir pu jouer justement pendant des mois, pendant presque un an, de pas être sur scène et de pas essayer de faire oublier justement le quotidien des gens.
Même si tu restais très connecté avec ton public via les réseaux, hein, malgré tout. Hein. Tu leur as offert des petits lives, tu leur as offert plein de belles choses.
Hein. Ouais, bien sûr, mais après c'est différent. Il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas la rencontre avec les gens. Et donc ouais, le fait de se poser la place, c'est aussi la colonne vertébrale de toutes les chansons de cet album. Il y a plein de personnages différents, mais quelque part ils sont tous en train de se poser cette question là et d'essayer de se positionner dans une société où il y a de la place pour tout le monde, mais une place pas évidente à chaque fois quoi. Enfin voilà.
Cet album, t'as tout composé toi-même? Est-ce que t'as eu des collaborations particulières? Est-ce que voilà, tu comment tu t'y es pris?
J'ai tout écrit, mais les compositions, on va dire que j'en ai fait trois quarts peut-être. Et puis après, j'aime bien aussi, quand je sens que j'ai pas trouvé la mélodie qui met en valeur les mots, faire appel à des gens en qui j'ai confiance et avec qui j'aime bien travailler. Donc, il y a eu notamment Vincha et Florent Richard qui sont des artistes que j'aime beaucoup et avec qui on a co-composé des chansons.
Génial ça. Dis-moi, Gauvin, la scène? Je sais que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. T'es en pleine tournée partout en France. Alors t'es passé cet été, t'as fait une tournée des festivals qui est passée d'ailleurs au Festival à Vaux-sur-Mer dans notre région, à Confolens d'ailleurs en Charente également au mois d'août. Je sais qu'au mois d'octobre tu seras le 20 au Hayan à l'Entrepôt. D'ailleurs le 21 tu seras à Montluçon, c'est pas très loin de la Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas c'est pas loin de ta Creuse natale aussi, hein, c'est le cas de le dire. Et puis il y aura aussi un grand rendez-vous à la Cigale pour nos amis parisiens. Ça sera l'année prochaine au printemps.
Ouais exactement. Ouais on joue là depuis un an, c'est vrai, un peu partout, et je suis super content. J'aime beaucoup cette période de tournée des festivals où chaque festival a un peu sa particularité, voilà. Et puis il y a toujours vachement de bénévoles, des gens qui sont très heureux de nous accueillir aussi parce que c'est toujours un événement pour eux. Voilà, c'est une fois dans l'année, donc il y a ce truc un peu à la fois familial et en même temps festif que j'aime beaucoup. Et puis les gens sont heureux, je crois, de retrouver cette ambiance de festival qui a été mise de côté pendant deux ans. Et puis on croise aussi pas mal d'autres artistes, ça c'est assez chouette aussi. C'est des rencontres qu'on peut pas forcément faire pendant l'année dans les tournées des salles. Donc voilà, je suis très très heureux de cette tournée là. Et puis maintenant, on va repartir effectivement dans les salles obscures, dans les théâtres et tout ça. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à mélanger tout type de salles. On fait à la fois des théâtres assez grands, on fait des centres culturels, on fait des l'année prochaine effectivement on va faire une tournée plus acoustique aussi dans des lieux encore plus intimes pour retrouver un petit peu mes débuts dans ce genre de salle là. Donc je suis content, heureux d'être sur scène. Voilà, c'est là que je me sens le plus comme un poisson dans l'eau. Donc je crois que je suis pas prêt d'arrêter de faire des concerts, ouais.
Bon, ta place dans ce monde, en tout cas, n'a pas dit son dernier mot. On en est loin.
Non, bien sûr. Continue de porter cet album-là jusqu'au prochain.
Bon, alors le prochain, voilà, on dirait, est-ce que tu as des espérances, des rêves particuliers de collaboration? Est-ce qu'il y a des artistes, toi, qui, je sais, aiment bien les collaborations aussi, est-ce que tu as des artistes avec lesquels tu aimerais peut-être faire des duos, des choses comme ça dans un prochain album?
Ouais, ça pourrait. C'est vrai que j'en ai pas fait sur cet album-là, j'en avais fait sur les deux premiers. Et je pense que je vais essayer de retrouver cette bonne habitude parce que j'aime bien aussi rendre hommage dans les chansons, donc pourquoi pas rendre hommage à des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier-là.
Quel plus beau rendez-vous que celui de partager dans ce cas-là une même passion. Gauvin, on va se quitter avec un deuxième extrait de cet album, Ta place dans ce monde. Tu vas nous dire lequel tu choisis et surtout pourquoi.
Je vais choisir Elle était là parce que je trouve que c'est une chanson aussi en hommage à quelqu'un qui a toujours été présente même pour moi. Voilà, depuis le tout début, justement, depuis les toutes premières lignes, depuis les concerts devant trois personnes. Et je trouvais que ça méritait largement une chanson. C'est souvent la préférée des gens qui connaissent mes chansons depuis le tout début. Donc voilà, je vais essayer de leur faire plaisir.
Écoute, on va écouter Elle était là. Gauvin Serres qui est notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute ta télé. On dit jamais 203, maintenant j'espère jamais 304. On se retrouve très vite, Gauvin, et on te dit à bientôt. On n'oublie pas qu'on te retrouve dans notre région. Donc on rappelle 20 octobre notamment au Hayan, près de Bordeaux. Ça sera en Gironde à l'Entrepôt, un rendez-vous à ne pas manquer notamment. Mais il y a plein d'autres rendez-vous évidemment qu'on vous donnera. Merci et à très vite.
Merci beaucoup, à bientôt, salut.
Quand devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout. Et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup. Quand aucun projecteur ne se braquait sur moi. Quand je guettais le facteur au tout début du mois. Quand j'étais sur la paille à passer le chapeau. Quand je prenais le train corail comme on prend un radeau. Quand le café était froid sur les aires d'autoroute. Quand glissait sous mes doigts des kilomètres de doute. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur. Lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures. Quand je marchais dans la rue, la dégaine de travers. Quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère. Quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie. Quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui. Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Dans une toute petite piole, qu'on rêvait d'un peu mieux. Et puis d'un chat qui miaule. Quand je payais l'abonnement, coquillette tous les soirs. Quand les applaudissements ressemblaient à l'espoir. Quand j'étais dans l'impasse à faire que des conneries. Quand la vie fait ses crasses, quand mon père est parti. Quand j'ai eu besoin d'elle pour pouvoir m'envoler. Quand j'ai eu besoin d'elle, elle était à côté. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là. Elle était là, elle était déjà là. Bien avant tout ça, elle était là.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Champion qui sera diffusé ce soir sur TF1, le téléfilm événement de cette rentrée avec Angie Girac et Aurélie Pons qui est justement notre invitée qui joue Marjorie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, je suis heureux de t'avoir. Et puis en plus, voilà, une nouvelle aventure après Danse avec les Stars, après évidemment Ici tout commence, où tu es évidemment à l'affiche tous les soirs à 18h30 sur TF1. Et bien là, c'est une nouvelle aventure avec laquelle tu partages une affiche avec Angie.
Ouais, exactement, exactement. J'ai eu la chance d'avoir un rôle sur ce joli projet. C'est mon second rôle de toute ma vie. Voilà, donc ouais, vraiment très très heureuse.
Alors, comment tu la définirais, toi, Marjorie ?
Alors, Marjorie, c'est vrai qu'elle est donc on est assez différentes. Elle est au premier abord un petit peu différente de moi dans le sens où elle peut avoir un petit côté un peu superficiel. Disons que voilà, elle aime bien s'apprêter beaucoup. C'est vrai que moi dans la vie, je suis très, enfin, je me maquille pas, etc. Donc voilà, c'était intéressant déjà pour ça. Voilà, très apprêtée, très coquette, vernis, maquillage, etc. Et puis voilà, une fille finalement qui est en fait qui a un grand cœur et qui est très très amoureuse évidemment de Zach. En fait, voilà, ils vont se rendre compte qu'ils sont quand même très différents parce que Zach est quand même quelqu'un de plutôt très simple et authentique. Peut-être que elle, voilà, elle aspire à, enfin, ils sont un petit peu différents.
Alors, comment ça s'est passé sur le tournage, ta rencontre avec Kenji déjà, et est-ce que vous êtes épaulés un petit peu justement tous les deux, est-ce que vous avez échangé sur vos métiers, vos expériences?
Ouais, bah, la première rencontre c'était à Paris, donc c'était pour faire une lecture en fait des textes et puis voir un peu les personnages. Donc on était avec Mona, la réalisatrice, Bah, ça s'est très très bien passé. J'étais enchantée de les rencontrer. Mona et Kenji. Kenji, il est adorable. Il a une super belle énergie. Il met tout de suite les gens à l'aise, quoi. Donc c'est.
Il devait être stressé malgré tout pour un premier rôle.
Malgré tout, oui. Ben c'est vrai qu'il était. C'était mignon parce qu'à un moment il a dit. C'est normal. Si moi aussi je suis un peu stressée, même si il a l'habitude quand même d'être exposé, etc. Mais c'est vrai que très humble, très agréable.
Alors, même si Aurélie, le rythme de tournage n'est pas le même hein, sur un film comme Champion, c'est les 4 semaines à peu près de tournage, donc ça va quand même moins vite qu'une quotidienne. Mais participer à une quotidienne comme Ici Tout Commence, c'est au rythme effréné où ça tourne, ça aide après, justement, au téléfilm à justement plus peaufiner, peut-être, et on a acquis évidemment une expérience de tournage qui te permet, toi en tout cas, d'être mieux dans tes baskets, non ?
Mais c'est vrai que c'est incroyable. Parce que on peut se rendre compte sur un autre format de tournage à quel point la quotidienne c'est une superbe école. Ça va tellement vite et on doit tellement être directement dans les émotions parce qu'on a que au maximum 5 prises pour
ça
pour,
c'est quand pour le réalisateur est de bonne humeur
la scène. Voilà, c'est ça voilà, sinon c'est une ou deux prises quoi, donc maximum, exactement. Donc c'est vrai qu'en fait c'est une superbe école parce qu'on doit tout de suite être dans l'émotion, de essayer d'être le plus juste possible très rapidement, et en fait d'avoir pu tourner sur un autre format, c'était hyper intéressant de voir qu'en fait on a plus le temps exactement de peaufiner, de se mettre un peu plus de recommencer plus de scènes. Et en fait c'est vrai que Mona souvent elle me disait bon bah c'est ce qu'il faut, j'ai ce qu'il me faut, et moi je me disais non mais peut-être qu'on peut essayer de faire mieux, mais Mona la réalisatrice elle me dit non mais j'ai ce qu'il faut. Donc j'étais assez satisfaite, c'était très satisfaisant de voir que en fait que même avec une grande réalisatrice on pouvait en produire un travail qui lui convenait quoi. Donc c'est vraiment super.
Mais il y en a beaucoup hein, qui disent que quand on fait une quotidienne c'est la meilleure école et on peut faire n'importe quoi après. C'est ça qui est chouette, c'est une belle expérience en tout cas que vous êtes en train de tous d'acquérir là-dessus.
C'est trop cool, j'ai beaucoup de chance.
Alors depuis la semaine dernière, on va parler d'Ici Tout Commence un petit peu quand même. Et depuis la semaine dernière, Salomé accueille les petits nouveaux.
Et oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a les nouveaux, ça y est, plein de nouvelles têtes. Donc,
c'est excitant, donc justement, pour vous, de voir accueillir plein de nouveaux comédiens comme ça.
C'est touchant parce que c'est très touchant en fait. Et on se rend compte quand même que ça va très vite, que ça fait déjà 2 ans moi, que je suis sur la série. C'est vrai que ça fait prendre conscience, ça fait prendre du recul sur le fait, il y a les nouveaux, enfin c'est plus nous en fait les nouveaux quoi. Donc c'est très touchant et on voit c'est un peu comme nous au début, parfois un peu stressé, un peu hyper excité. Donc c'est touchant et en même temps nous on est là, on essaie de les accueillir le mieux possible pour qu'ils soient dans le temps. En plus ils sont très très jeunes, donc c'est pas facile pour eux et ils sont vraiment super, donc c'est intéressant.
C'est chouette en tout cas d'accueillir toute cette nouvelle promo, et puis en plus la production a trouvé un moyen malin de pouvoir vous garder au-delà de la 3e année avec ce master que vous allez démarrer bientôt sous la houlette de Rose. Exactement. Latour, et ça c'est un moyen bien malin de vous garder 2 ans de plus avec nous, et ça c'est bien.
C'est vrai, c'était un bon moyen de pouvoir continuer avec nos personnages qu'on aime tant, Salomé, Anaïs, Aziz qui joue Enzo, c'est vrai que on pouvait pas vous laisser partir.
Mais je me doute. En tout cas, t'as fait une très belle aventure dans Liste avec les stars aussi l'année dernière. Il y a une nouvelle saison qui démarre aussi bientôt, mais en tout cas tu t'es très bien défendu, bravo à toi encore pour l'année dernière aussi avec ce beau parcours que tu as fait dans l'émission. On te retrouve évidemment Aurélie du lundi au vendredi 18h30 dans Ici Tout Commence, et puis ce soir évidemment c'est la grande soirée avec la diffusion de Champion, ce téléfilm inédit. On retrouvera également un très très beau casting à tes côtés, comme Lumna aussi Azabal qui sera aussi au casting, Kenji Girac et plein de beau monde. Merci beaucoup Aurélie d'avoir été avec nous.
Merci à toi Alain.
Et puis on se dit à bientôt.
À bientôt.
Et tout de suite.
Bonne journée.
Et tout de suite la bande annonce de Champion, c'est ce soir sur TF1, c'est parti.
Papa ! Oui allô, c'est mon père, il respire plus. Je sais pas, il y a rien d'écrit.
Si le secours était arrivé plus tôt, il y aurait pas eu de comment.
Je sais pas lire et je sais pas écrire.
Entre les chantiers, les factures, les trucs à remplir,
je fais ce que je peux. Tu mérites d'être reconnu comme un véritable entraîneur, alors tu passes ce diplôme.
Avec mes mains, je peux faire plein de choses, tellement de choses.
Parfois, il suffit d'un déclic.
Inédit, Champion avec Kenji Girac dans son premier rôle.
prochainement sur TF1.
Allez, coup de cœur télé consacré au nouveau téléfilm d'M6, à La Folie, que l'on va retrouver cette semaine avec aux commandes Éric Métayer et Andrea Bescon, qui fait son retour dans notre émission après ce formidable film Les Chatouilles. Andrea, très heureux de te retrouver. Bonjour.
Adora, merci beaucoup, moi aussi.
Merci d'être avec nous. Et puis alors, tu n'es pas venue seule parce que tu nous as fait un beau cadeau. Marie Gillin également, qui revient dans notre émission. Quel bonheur également, Marie, de t'avoir avec nous. Bonjour.
Bonjour, bah, je suis ravie aussi d'être là.
Alors, après le sujet sensible, évidemment, des chatouilles, là, c'est encore un sujet sensible dans l'univers d'un pervers narcissique que tu nous emmènes, là, Andrea, dans cette réalisation. Là, on est sur une histoire psychologique, vraiment très, très psychologique. Un sujet d'actualité, parce qu'on en parle pour le coup du narcissisme, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée, déjà, de faire un film sur ce sujet-là?
Oh là, alors moi je suis juste artisante hein, dans ce projet, puisque c'est Léonore Bauer et Guillaume Labbé qui ont écrit ce scénario, et c'est Julie Coudry et Adrien Labastire qui nous ont contacté, Eric et moi, pour que nous le réalisions. Nous, on était plutôt dans l'idée de réaliser que ce qu'on écrivait, et d'un seul coup on a lu le scénar et on s'est dit, mais évidemment on peut pas passer à côté de ça, c'est hyper bien écrit, c'est juste. Après, on évidemment, comme on lutte beaucoup contre la pédocriminalité et les violences faites aux femmes et aux enfants en règle générale, on l'a trouvé très pertinent, très documenté, enfin très précis. Voilà, on s'est pas posé la question, on a foncé quoi avec Eric.
C'est une commande qui vous a tout de suite séduit en quelque sorte.
Complètement, complètement, vraiment. C'est une proposition, c'est pas vraiment une commande, c'est vraiment une proposition. Et on s'est dit, on va y mettre. Alors par contre, la condition, c'était qu'on puisse y mettre notre patte, notre folie, notre humour, notre lumière, qu'on amène toute notre équipe, qu'on définisse nous-mêmes le casting en accord avec la chaîne, mais quand même avec de vrais points de vue, quoi. Donc c'est un peu les conditions sine qua non. Et tout a été accepté, on y est allé, on a fait ça collectivement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion.
Marie, qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce personnage d'Anna? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite?
Le premier oui, il était vraiment à égalité dans ma tête quand on m'a dit que c'était Andrea Bescon et Éric Métayer qui réalisaient. Et le scénario, évidemment, j'ai trouvé que c'était déjà un sujet que je trouve brûlant et passionnant, et qui est le mécanisme de l'emprise. Ça, j'ai vraiment trouvé passionnant la façon dont c'était raconté et traité, avec tous les éléments contradictoires que les victimes de pervers narcissiques ou de perverses narcissiques ont à faire face. Il y a une phrase qui me revient, qui est vraiment typiquement, le pervers narcissique va vous proposer un pain au chocolat tout en vous disant que vous êtes vraiment trop grosse. Et donc c'est le cerveau qui est en permanence en agitation totale, en pleine contradiction d'informations, et à la fois avec un sentiment amoureux qui est exacerbé. Donc enfin voilà, cette descente aux enfers, j'ai trouvé qu'elle était très très bien racontée.
C'est vrai, c'est l'histoire d'une femme à bout, voilà, qui voit pas le bout du tunnel et qui évidemment juste cette petite lumière, elle voit qu'une solution, c'est se débarrasser en quelque sorte de ce pervers narcissique. Et il est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui peuvent être dans cette situation-là, qui pensent à ce passage à l'acte. Et là, il fallait vraiment, voilà, oser d'aller sur ce sujet-là. J'espère vraiment que ça va apporter une lumière sur ces circonstances psychologiques qui font qu'aujourd'hui mais ça existe de plus en plus.
En tout cas, on voulait, enfin, les auteurs et puis nous par la suite, on a voulu montrer tout, enfin, décrire ces mécanismes-là. Et dès lors que vous êtes dans une relation où vous vous retrouvez isolé de vos amis ou de votre famille, que votre compagnon ou votre compagne vous isole de votre entourage, qui vous rend dépendant financièrement ou même dépendant d'un lieu dans lequel vous habitez et qui vous sépare petit à petit de l'être que vous étiez, il faut vraiment se poser des questions. Et cette relation n'est pas saine. Et généralement, alors là, ça va beaucoup plus loin, mais tous les féminicides, toutes les femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint viennent d'une relation de ce type, c'est-à-dire des hommes qui les ont isolées au fur et à mesure jusqu'à devenir un crime de possession quand elles veulent partir et quand elles veulent les quitter.
C'est ça qui est dur. Comment on ressort d'un tournage comme ça, d'un mois? On est épuisé, comment on vit ça, même quand on rentre le soir après une journée de tournage harassante, Marie, j'imagine un peu dans l'état dans lequel on peut se trouver quand même.
Bah, notre métier d'acteur, il est plein de contradictions aussi, parce que un rôle magnifique est un rôle complexe. Un rôle complexe, ça peut être justement aller chercher des émotions qui peuvent être aussi bien très positives comme très négatives, dévastatrices. Une belle journée d'acteur, c'est une journée où on a l'impression qu'on a touché juste à un endroit juste, un endroit de vérité. Alors ça peut être dans la souffrance. Le bonheur pour moi, ça a été vraiment la rencontre avec Andrea et Eric, qui a été une relation d'entière confiance, où on sait que on nous fait confiance et donc on peut faire confiance et tout est possible. Il y a pas de, il y a juste un filet, mais il y a pas de limite. Et moi, je me suis toujours dit, ça ne veut pas dire que j'étais capable d'y arriver, mais je n'ai jamais vu de limite dans mon métier d'acteur. Moi, c'est ça que je trouve fabuleux. Et avec une équipe comme eux, eh ben on est là-dedans. Et puis en plus, comme ils viennent du théâtre aussi, de la danse, il y a cette idée de troupe, cette idée de recherche. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est de faire partie du processus de création, en fait. Voilà.
Vous étiez surprise toutes les deux que M6 veuille aller sur des sujets aussi forts, sur des sujets autant d'actualité, que ça soit pas peut-être sur une chaîne de France Télévisions, mais que ça soit M6 qui ose ça?
Ben moi, j'étais très heureuse de ça. Je suis vraiment très heureuse de ça. Que la télévision, en règle générale, et notamment M6, c'est vrai que c'est pas, entre guillemets, le travail de fiction qu'ils font d'habitude, encore que on va pas non plus étiqueter tout le monde. Donc je les félicite pour ça, je suis très très contente.
Parce que revenir sur la porte du prime time par des sujets aussi forts comme l'autisme, comme la trisomie, c'est vraiment chouette. Surprise Marie aussi ou pas?
Là où je suis agréablement surprise et en même temps, j'ai quand même la sensation pour avoir été, j'ose pas trop dire ce mot parce que ça fait un peu pompeux, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être présidente du jury à La Rochelle il y a quelques années et j'étais vraiment étonnée de voir tout le panel de création et en particulier des vraies prises de risques qui sont faites dans ce domaine des sujets de société importants. Et je pense que maintenant, alors ça veut pas dire que à chaque fois c'est raconté de façon mirobolante ou passionnante artistiquement. Ça par contre, il y a quand même toujours une évolution à faire. Mais en tout cas, on sent aussi que le public est sensible, voilà, à ce que ce genre de récit de société soit raconté, que ça puisse libérer la parole, ouvrir des débats. C'est important.
En tout cas, ce qui est chouette, c'est d'avoir présenté ce film pour la première fois à l'endroit où tu étais présidente du jury il y a quelques années. Ça, c'est quand même sympa.
Oui. Non, je suis contente, quoi. Je suis contente.
Bon, les premiers retours du public, justement, c'est toujours touchant. C'est ce qu'on attend toujours avec impatience. Et quand on fait un film de télévision, c'est rare qu'on puisse avoir ce retour du public. Donc, je suppose que là, à quelques jours de la diffusion, là maintenant, vous attendez avec impatience que le grand public voit le film.
Nous sommes très impatients et impatientes et on espère vraiment que beaucoup de monde prendra rendez-vous avec cette fiction parce que vraiment c'est réussi, c'est un beau travail, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, je vous assure, c'est, tout le monde est au bon endroit, quoi. C'est un vrai beau travail collectif et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, quoi. Parce que c'est artistique, c'est politique, c'est utile et il faut le faire et vraiment je suis fière de cet outil-là, quoi. Vraiment fière de ce film.
Merci infiniment à toutes les deux. Merci Marie, merci Andrea.
Merci.
Et on termine par la bande-annonce.
C'est toi que j'aime, tu le sais, non? Reconnaissez-vous avoir poignardé Damien Joly aujourd'hui à 13h47? Pourquoi vous avez fait ça?
Pour que ça s'arrête.
Je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi.
Je l'ai vu faire, je l'ai vu l'enfoncer, je l'ai vu là, détruire petit à petit.
T'es quand même un peu coincé du cul, quoi.
Il lui faisait la misère et elle revenait à chaque fois.
Pardon.
J'ai l'intime conviction qu'il l'a détruite. J'ai vraiment besoin de votre aide.
Est-ce que vous avez perdu des choses pendant cette relation?
Si, des amis. Mon boulot, mon appartement, mon fils aussi.
Ouais, j'ai perdu mon fils.
Qu'est-ce que je t'ai fait?
Le propre d'un pervers, en fait, c'est de pousser jusqu'au suicide.
J'ai l'impression d'être face à une victime, pas une tueuse.
Mardi 6 septembre, découvrez la création exclusive M6 à La Folie.
Dans un instant, on parle du film La Dégustation, Yvan Calberac, Isabelle Carré, Bernard Campan nous rejoignent. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Je ne sais pas où va mon chemin, mais je suis mieux quand ma main est dans la tienne. Je ne sais de quoi sera fait demain, mais peu importe tant que tu seras mienne. J'aime ton sourire, tes éclats de rire, tout ce qui fait que tu es toi. Si tu dois partir, je préfère mourir que de te savoir loin de moi.
Toi diamantele, le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Toate diamantele, le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Hey!
Je veux nous à toi.
J'aimerais te couvrir de bisous pour qu'aucune larme coule sur tes joues. Je suis prêt à tout.
Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toată dragostea s-o simți.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre spécial La Dégustation. Le film vient tout juste de sortir en salle et quel bonheur de recevoir eh bien l'équipe aujourd'hui pour cette deuxième émission de la saison. On a le réalisateur qui est avec nous, Yvan Calberac. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Merci d'être là, une comédienne que j'adore, qu'on a eue pour Les Émotifs Anonymes, pour Maman est folle. Elle a une palette de jeux absolument incroyable et là, elle va nous faire rire, beaucoup rire, avec de l'émotion aussi. Dans ces films comme Yvan, c'est si bien le faire aussi. Isabelle Carré, notre invitée. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Et puis, on a également Bernard Campan, qui est bien connu dans notre région aussi, puisqu'il y vient de tourner. Il a tourné notamment à Boule Noire, du côté de Rochefort, dans notre belle Charente-Maritime également. Bonjour, mon cher Bernard.
Et bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être là avec nous. Alors, tous les trois, c'est une adaptation, Yvan, de ta pièce de théâtre, Éponine, que c'est déjà toi qui as mis en scène. Première question que j'ai envie de te poser, la difficulté que c'est de transposer une pièce de théâtre, et c'est pas ta première, ton premier coup d'essai, au cinéma. Qu'est-ce que ça change ?
Alors là, j'avoue que c'était pas prévu de porter cette histoire au cinéma, mais ça a été un succès tellement fort au théâtre. On l'a joué 300 fois, on a eu des Molières, que en fait, Bernard et Isabelle sont venus me voir un jour en me disant « mais... et si on faisait le film ?» Et c'est vrai que j'avais, je commençais à y penser aussi un petit peu. Et c'est vrai que pour passer d'une pièce à un film, il y a un vrai travail parce que c'est pas le même univers fictionnel. Mais en fait, il y avait tellement de choses qui marchaient bien au théâtre, comme cette grande scène de dégustation qui était très drôle. Et puis c'est une rencontre, c'est une histoire d'amour et c'est aussi très cinématographique. Donc il y avait tous les ingrédients pour pouvoir faire un film, même s'il y a eu un vrai travail pour aller vers du cinéma, parce que c'est pas une adaptation de théâtre filmé, c'est vraiment un vrai film de cinéma.
Ça c'est clair et net. Alors, pour planter un petit peu le décor, on y suit l'histoire d'un caviste qui est un petit peu malade, il boit un petit peu, on peut le dire, parce qu'évidemment il faut qu'il goûte les produits qu'il vend. On va donner cette excuse, Bernard, c'est bien vendu ça ?
Oui, mais pas seulement. Pas seulement, c'est qu'il a un vrai problème avec l'alcool. Il est alcoolique. Voilà.
Et puis le personnage d'Isabelle qui est un petit peu seul et qui va se retrouver à faire cette rencontre qui va pas forcément être un coup de foudre tout de suite, mais ces deux-là vont apprendre à se connaître et une belle histoire va se nouer, en tout cas autour d'une dégustation, de vin bien évidemment. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on consomme avec modération, mais je vous garantis que ce film, La Dégustation, vous pourrez le consommer sans modération, sans aucune modération. Isabelle, hein ?
Oui, c'est vrai que comme l'a dit Bernard, ce sont deux êtres qui ont été abîmés un peu par la vie, qui ont un peu souffert. Alors c'est ça qui est beau dans le film, c'est que bien sûr on raconte une histoire d'amour, mais là c'est une histoire d'amour de personnes qui ont déjà aimé et qui se sont déjà pris des portes dans la figure, et est-ce qu'on y croit encore ? C'est vraiment ça le sujet. Alors oui, il faut penser ses blessures, il faut se consoler l'un l'autre, il faut y croire à nouveau. Et du coup, ça fait une comédie romantique qui est à la fois très drôle parce qu'il y a le vin qui s'en mêle, qui nous rend maladroit, qui nous fait dire des vérités qui nous échappent, parce que in vino veritas. Hein. Et puis, il y a aussi d'autres intervenants. Il y a un Cupidon qui nous aide aussi, un Mounir Amamra. Steve, le personnage de Steve, qui est un aide du caviste Jacques. Et il y a un libraire aussi, Eric Viellard, qui est là. Enfin voilà, on a besoin de tout ça parce que c'est pas gagné. Évidemment, on va finir ensemble, mais c'est pas gagné. Alors le film raconte tout ça. C'est vrai que c'est savoureux.
C'est un parcours de vie de deux personnes, effectivement, qu'on découvre au fur et à mesure. C'était une évidence de reprendre vos rôles, pour le coup, pour le film, tous les deux. L'avantage que vous aviez, c'est que du coup, vous vous connaissiez par cœur déjà.
Oui, enfin, il y avait des petites différences, enfin des grosses différences même. Parce qu'en fait, pour la pièce, c'était vraiment le point de vue de Jacques dans sa cave. On sortait pas de la cave. Et là, c'est le point de vue de mon personnage. Et comme ça, on va voir, ben, par exemple, dans la pièce, elle disait qu'elle était sage-femme. On la voit accoucher d'enfants. On la voit avec son désir d'enfant.
Ça prend vie.
Ça prend vie, exactement. Et il y a une intimité. Il y a des strates supplémentaires. C'est plus profond, disons. Et du coup, on garde l'humour qui était incroyable de la pièce. Mais en plus, on a cette dimension plus tendre et plus émouvante.
D'accord avec ça, Bernard ?
Oui, je ne saurais dire mieux et je ne dirais pas mieux.
Quelle était la scène la plus drôle à tourner ? Alors, je vais demander aux trois, parce que là, les trois sont concernés, parce que ça peut être devant ou derrière la caméra. On va commencer par Bernard.
Ben, les scènes les plus drôles à tourner sont pas forcément les scènes les plus drôles à l'écran. Hein. Là, parfois, la comédie n'est pas forcément drôle à tourner sur le moment, parce qu'on cherche quand même, on a peur. Ben, j'ai aimé un peu tous les moments, donc j'ai aimé ces moments de tournage de nuit. Je repense à la chute à trottinette. J'ai aimé la scène de la dégustation, évidemment. J'ai aimé dans les vignes avec les SDF, mais il n'y a pas eu forcément un moment, je me souviens pas d'un... Pourtant, on a rigolé, je sais plus, il y a eu de...
C'était la scène de la dégustation, moi je m'en rappelle très bien, j'avais beaucoup de mal à... La scène de la rétro-olfaction, c'est-à-dire quand on goûte, et vous savez, on réaspire comme ça le vin, et là on a eu des prises et des prises là-dessus, et moi j'avais beaucoup beaucoup de mal à me calmer, à tel point qu'à un moment donné, Yvan Calberac est venu gentiment me dire qu'il fallait quand même qu'on fasse le film, il fallait quand même qu'on continue à tourner.
Je rigole encore parce que je revois la trottinette, elle est revenue en boucle dans ma tête, et je revois la trottinette en sortant de la boutique, c'est une scène à pas rater ça, celle-là Yvan, elle a marché du premier coup.
Non, on a fait plusieurs essais, comme souvent en comédie, hein, faut s'y reprendre à plusieurs fois. Moi, en tout cas, il me faisait beaucoup rire, donc derrière le combo, quand je tournais, il y a plein de moments où j'avais envie de rire. Et c'est vrai, cette scène de rétro-olfaction, où ils font tous des têtes incroyables, ça a été vraiment des fous rires fantastiques. C'est une des scènes qui faisait le plus rire au théâtre, et c'est encore une des scènes qui fait le plus rire au cinéma. C'est vraiment, le film s'appelle comme ça, et il y a une grande scène de dégustation dans le film, c'est vraiment un moment, je pense, qui est particulièrement apprécié.
Alors, ce film, voilà, c'est vrai qu'il y a les personnages de Bernard qui sont centrales et Isabelle, mais Mounir Amamra et Eric Viellard apportent vraiment cette touche aussi de comédie, en particulier Mounir, qui est un jeune travailleur que le personnage de Bernard prend un peu sous son aile, en quelque sorte.
Il est en quête de réinsertion professionnelle, mais il vit dans un foyer, il n'a pas de parents. Il va être, on va lui voler son scooter et du coup, il va avoir maille à partir avec des gens qui ne sont pas très honnêtes. Mais lui, à la base, n'est pas délinquant. Mais par contre, il va être un peu entraîné malgré lui dans quelque chose qui va lui poser des problèmes. Mais c'est avant tout un personnage de comédie qui est très drôle parce qu'il a une tchatche, un franc-parler, et il vient bousculer ce Jacques qui est seul dans sa cave, un peu comme un ours qui serait reclus. Et en fait, parce que Hortense vient de rentrer dans sa vie, Jacques se sent de faire entrer ce jeune et il va effectivement jouer ce Cupidon dont Isabelle Carré parlait entre deux, parce qu'ils sont tellement empêchés, coincés, maladroits qu'ils n'y arriveraient jamais tout seuls. Même avec le vin, ça suffirait pas. On a besoin de ce personnage pour qu'il se rapproche enfin. Et Isabelle disait, on sait qu'il va finir ensemble. Alors c'est pas si simple pour les gens qui verront le film, c'est pas si simple. Et moi, je garderais quand même un peu de suspense parce qu'on ne sait pas exactement la fin qu'on.
C'est un parcours semé d'embûches. En tout cas, moi, ce que je pourrais dire, c'est que ça pourrait presque déboucher sur une suite. Parce que la fin est ouverte, hein, quand même, hein, malgré tout.
Alors, on a pensé à un titre pour la suite qui s'appellerait La Cuite. Et voilà, et nos producteurs sont partants. Donc, on va voir si le film a du succès. Après la dégustation, il y aura peut-être La Cuite.
Partant, en tout cas, Bernard ?
Une trilogie avec La Gueule de Bois en troisième, oui.
On a déjà les deux prochains titres, Isabelle, partant, si on... Vous deviez endosser ce rôle ?
Mais même si, voilà, s'il y a ces deux garçons là autour de moi, Yvan et
Jacques, tu crois que je suis encore Jacques, c'est ça ?
S'il y a ces deux garçons là autour de moi, mais même ouvrir une porte et dire bonjour, je le fais. Ouais. Je dis n'importe quoi pour eux.
Voilà.
Voilà.
Elle irait jusqu'au bout du monde pour
jusqu'au
nous.
Jusqu'au bout du monde.
En tout cas, on aimerait bien, parce que moi, je peux vous dire qu'on a passé un très très bon moment, et vous allez passer un très très bon moment. Le film est dans les salles depuis 5 jours, alors allez-y. C'est le moment, les films ont besoin de vous, surtout en ce moment au cinéma. Il faut y aller, voilà, dès que vous pouvez, quand vous avez un film qui vous donne envie. J'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas. On termine par les projets. Alors Bernard, je crois qu'il y a un retour des Inconnus qui se profile à l'horizon sur TF1, et je crois que ce retour, ben là, c'est pareil, on va se retrouver dans une vie parallèle un peu, où les Inconnus n'auraient jamais existé, mais leur sketch, oui. Et ils vont découvrir qu'ils sont interprétés par d'autres, et ça va être l'occasion de revisiter justement tous ces sketchs cultes avec lesquels on a grandi.
Oui, c'est ça. Il va y avoir deux émissions pour TF1. Une, comme vous l'avez dit, on se retrouve. Ça a été très bien fait parce qu'ils nous ont bien mis à l'aise pour réévoquer notre parcours entre nous, en nous stimulant avec des extraits de trucs qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Ouais, c'était très chouette. Et puis il y aura une autre émission, mais c'est pas encore fait. Et puis il y a un autre projet, mais je laisserai Yvan en parler.
On va y aller, Yvan aussi. Isabelle, les projets pour 2023 ?
Oui, ben déjà, je vais tourner dans quelques jours avec Cadmerad. J'avais jamais tourné avec lui, avec Lovis Corniak. Je vais être au théâtre aussi avec une pièce de Martin Krimp qui s'appelle La Campagne, avec un comédien extraordinaire, pardon Bernard, Yannick Chouara.
C'est vrai qu'on a pu découvrir dans Un homme abîmé qui est incroyable. Yvan, on termine par les projets aussi.
Eh bien, c'est un projet théâtral. En ce moment, on est en répétition avec Bernard Campan, Isabelle, cette fois Gélinas, et Mélanie Bernier et trois autres comédiens merveilleux. Et on prépare une pièce qui s'appelle Les Humains, qui va se jouer à partir de fin septembre au Théâtre de la Renaissance. Voilà, c'est une pièce qui est adaptée d'une pièce américaine qui a eu plusieurs Tony Awards, qui a été un immense succès à Broadway. C'est une comédie familiale, un soir de Noël, qui va pas se passer comme prévu. Voilà, qu'on a hâte de présenter au public.
Et que tu vas adapter au cinéma peut-être après ?
Alors, je sais pas si ça sera adapté au cinéma. Il y a eu un film sur plateforme aux États-Unis adapté de ce... Donc non, a priori pas adapté au cinéma. Je travaille sur un autre projet pour le cinéma.
Bon, ça sera l'occasion de revenir nous en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Dégustation. C'est depuis mercredi au cinéma. À très vite. Et on termine par la bande-annonce, évidemment.
T'es magnifique.
Ouais,
tu me regardes.
Petit homme.
Bon, vous me le rendez ?
Ah, oui, bien sûr.
Je suis ridicule. Vraiment que je change de métier, ça devient trop dur.
Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous savez qu'avec la fragilité de vos valvules cardiaques, l'alcool est un facteur aggravant. Et c'est pas parce qu'il y a écrit Médoc sur certaines étiquettes que ça va vous soigner de quelque chose.
Bonjour, je passais pour m'inscrire à un de vos ateliers de dégustation. C'est confirmé ?
Oui, jeudi.
Vous pouvez m'appeler Hortense.
Moi, c'est Jacques.
Vous allez la pécho.
Ça va pas bien, vous ?
Vous pouvez m'appeler Hortense. Moi, c'est Jacques.
C'est fini, là, oui ? Une dégustation se déroule toujours en trois étapes. L'aspect visuel, ensuite on va sentir le vin, et après on le goûte.
Un peu comme avec une femme.
Alors non, pas vraiment.
Tout va bien, j'ai ripé.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, Stéphanie Pilonka et Samuel Alain Bitbol seront avec nous pour la diffusion du téléfilm J'irai au bout de mes rêves, spécial Le Tigre et le Président, avec Jean-Marc Perfit et Jacques Gamblin qui seront également avec nous. Et il y aura évidemment d'autres surprises avec une spéciale des Mystères de la Duchesse avec Jérémy Banster et toute l'équipe du téléfilm. Et puis une spéciale Festival de la Fiction Télé également.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.